Bon allez les gars, vous êtes prêts? Il faut faire une belle story là parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des vues hein, sur Instagram. Allez, je veux 5000 vues là, hein, Boujema. Je veux 5000 vues, pour ça il faut que tu sois vraiment opérationnel. Hein.
Le 5000 likes.
Oh putain, il y a un mec qui va vraiment être traumatisé de ce qu'on va
like
faire.
Like a god.
Il va vraiment être traumatisé là, il va pas savoir ce qui se passe.
Drifter.
Bon c'est pas grave, écoute, il comprendra un peu plus tard quand il sera abonné à ma chaîne à YouTube. À ma chaîne à YouTube. Bon. Qui c'est qui filme dehors?
Vas-y.
Tu veux filmer toi dehors?
Mais non, ouais. Fais filmer Boujema, on va pas crier à deux.
Ouais, va pas crier Boujema, vas-y. Boujema.
Crier Boujema, tu es fou toi.
Bon les amis, bien évidemment, ce soir, comme d'habitude, on va un petit peu drifter et regarder un petit peu. Ce soir, on est chaud bouillant. Like
Bonsoir, 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 chers amis auditeurs, chères amies auditrices. Nous revoilà dans une nouvelle émission d'enquête de cinéma. Ce soir, bonsoir, bonsoir. On a eu un petit souci technique. Merci, Sidi. Cette émission est présentée par moi-même, oui, et notre flower, Eddie. Nous sommes en présence de Marius et de Clara.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci, Sidi, pour ta présence fidèle, comme toujours. En cette période de Ramadan en plus, et cette belle soirée de fête, de Pâques. Le printemps est là, n'est-ce pas, Eddy? Les oiseaux peut-être migrateurs reviennent. On va partir du nord, on va partir vers le nord pour revenir vers le sud, et on va remonter du sud vers le nord dans deux films que vient nous présenter Marius et Clara, que je laisse Eddie présenter.
Oui, non, alors on a invité Clara et Marius parce que leur film va être présenté dans le cadre des étoiles du documentaire de la Société civile des auteurs multimédiales. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la maison des auteurs de l'audiovisuel. Et il y a une édition marseillaise des Étoiles de l'ASCAB. Les Étoiles de l'ASCAB, c'est 30 films chaque année qui sont récompensés, 30 films qui ont été diffusés à la télévision et qui sont étoilés. Ça veut dire que c'est un petit peu la crème de la crème de la production documentaire française de l'année. Et plusieurs réalisateurs, membres de l'ARSC, l'Association des réalisateurs du Sud, ont choisi parmi ces 30 films 7 films qui seront présentés à Marseille, dont les deux films de Clara et de Marius, Sheila, Clara Tepper et Paul Piritano, et Solide, film de Marius Van Mal. Et on est content aujourd'hui de leur recevoir et de leur donner la parole parce que ce sont deux jeunes documentaristes et ça nous intéressait de leur donner la parole et de montrer qu'il y a une relève ardente, vaillante et vigoureuse prête à monter à l'assaut du documentaire français. Alors, je vais juste les présenter en quelques mots pour faire un peu connaissance. Mm-hmm. Alors, Clara Tepper.
Oui.
Clara Tepper, tu as 32 ans.
C'est ça.
Tu as fait des études de sciences politiques et de philosophie politique avec un mémoire sur Marx, Gramsci et Marcuse. Mm-hmm. Vaste programme. Et puis après, donc, tu es... Tu as grandi à Paris,
oui.
Et tu es venu à Marseille pour faire un master en réalisation documentaire, le master écriture documentaire, à l'issue duquel tu as réalisé un très beau film sur la lutte des Fralibs. Rappelez-vous ces ouvriers, ces ouvrières qui, pendant 4 ans, un peu le combat du pot de fer contre le pot de terre, contre la multinationale Unilever, et tu les suis à partir du moment où ces ouvriers vont reprendre leur outil de travail et monter une SCOP, une coopérative ouvrière, et tu filmes ce moment-là d'éveil des consciences, aussi de prise de conscience de la part des ouvriers qui sont capables de gérer leur outil de travail. Et c'est un très, très, très beau film, on peut dire engagé, tu acceptes le terme ?
Oui, je dirais pas militant, mais je dirais engagé.
Et c'est quoi la différence que tu fais ?
Disons que par exemple, moi, je vais pas me positionner en disant je défends la CGT, même si la plupart des ouvriers, enfin en prenant partie aussi, mais la plupart des ouvriers étaient syndiqués à la CGT et elle était très partie prenante de la lutte qu'ils ont menée pendant 4 ans. Mais l'idée n'est pas de faire un film promotionnel, je veux dire, pour telle ou telle institution politique, mais de raconter l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont lutté pour leur travail et pour changer leurs conditions de travail.
D'accord. Un film qui a été sélectionné dans pas mal de festivals internationaux. Je crois aussi que tu as eu des prix pour ce film. Et quelques années plus tard, tu reprends le chemin de la réalisation et tu fais un film avec Paul Péritano qui s'appelle Shella, qui est l'objet du film dont on va entendre des extraits. En 2002, première mondiale à Vision du Réel en Suisse, en compétition internationale, puis sélection au Festival du cinéma du réel, de l'USAS, du FIPADOC.
Pas du cinéma du réel, mais de l'USAS, oui, de la sélection de la SCAM à l'USAS.
D'accord. Ouais. Donc un film qui a eu une très très belle vie. En gros, on ne va pas dévoiler l'histoire tout de suite, mais enfin bon, le personnage, Shella, une jeune femme de 23 ans, qui tente de fuir la violence de son compagnon, et c'est un peu une course de fond pour son émancipation, je ne sais pas quel terme employer, enfin pour se dégager
ça me paraît juste.
De son emprise. Donc on va en parler. Puis Marius, alors Marius, un peu des mêmes formations, études de sciences politiques à l'IEP d'Aix. Tu réalises des films depuis que tu es adolescent, depuis le collège. Tu fais parmi tous les courts-métrages que tu fais, il y a un qui m'a marqué, qui s'appelle Une nuit à Plan, donc Plan comme plan de campagne, un film de 11 minutes qui se passe sur le parking de la zone commerciale, où on assiste à une course de bolides rugissants. Ça se passe de nuit. Ah, d'autres films aussi, mais alors, tu reviens avec Solide, on va en parler. Et là, on est de nouveau dans une zone commerciale, de nouveau sur un parking avec des jeunes. Donc, est-ce que c'est un peu une obsession pour toi, les parkings ?
C'est pas une obsession, mais quand tu citais tout premier film, c'était vraiment juste des films d'enfants et d'adolescents pour se faire plaisir. Et donc, souvent, on commence par vouloir faire un peu du cinéma de genre. Donc, c'est plutôt des films de cow-boys, des trucs dans le genre. Et après, quand on découvre le cinéma documentaire, eh ben, je pense que la première approche pour déjà se trouver soi-même une légitimité, c'est de prime abord de filmer ce qu'on connaît le mieux. Et donc, au début, moi, c'était de revenir à mes sorties adolescentes et l'environnement près duquel j'ai grandi. Et donc, c'était en grande partie près de plans de campagne. Et après, c'était un attrait pour certaines thématiques qui se trouvaient là-bas. D'où ces deux projets dont tu parles. Une nuit à Plan, parce que régulièrement, j'étais un peu fasciné par ce qui se passait le vendredi soir, passé 20h, sur le parking de Plan de Campagne.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas vu ?
Eh ben, y a une énorme foule qui disparate, qui commence à s'agglutiner sur le parking principal, celui du casino, vraiment de manière complètement sauvage, sans qu'il y ait rien qui ait été organisé, mais juste depuis des années et des années, tout le monde sait que le vendredi soir, c'est le rassemblement auto de Plan, mais il n'y a jamais eu rien d'officiel. Et donc, on commence à voir plein de voitures qui se gardent, des gens qui commencent à sortir des chaises de camping, qui se mettent au bord des voitures, certains fument la chicha. Enfin, il commence à avoir une ambiance assez électrique. Et petit à petit, au début, ça commence plutôt par de la démo, des gens qui font un peu rugir leur moteur, mais tout le monde se balade, ça reste très familial au début. Et les gens juste vont regarder les voitures des uns et des autres. C'est un peu Je dirais pas que les gens se toisent parce que c'est très amical, mais en tout cas, il y a un peu une ambiance de concurrence voiture contre voiture. Et au fur et à mesure que la nuit avance, il se met à voir des start and go, ce qu'on appelle, c'est des gens qui font des démarrages très rapides. Il y a des gens qui viennent faire du drift. Et évidemment, bon, à la fin des
du drift.
Ils vont faire déraper les voitures. Certains crament un set de pneus juste dans la soirée. Il y a vraiment plein de passionnés et c'est assez fou à voir. C'est assez sauvage, ça peut aussi des fois un peu déraper. Ça finit des fois un peu en course du chat et de la souris avec des flics. C'est ce qu'on voit un petit peu dans le petit court-métrage. Et du coup, en tout cas, cette ambiance m'intéressait bien. Donc j'avais un petit peu filmé ça. Et après, dans Solid, c'est en grande partie parce que c'est à côté de là qu'il habite, et c'est là où il sort avec ses potes, et c'est là où je sortais avec lui avant. Et du coup, c'était naturel pour moi de filmer cet endroit qui m'intéresse, et on en parlera peut-être après pour plein de raisons.
Ok. Alors, petite question préalable qu'on a envie de vous poser avant de rentrer dans le vif du sujet, d'écouter des extraits de chacun des deux films. C'est comment vous êtes venu au documentaire D'abord, comment vous êtes venu au cinéma? Et après, deuxième question, comment êtes-vous venu au documentaire?
Alors moi, je dirais que le cinéma, j'ai pas complètement de réponse parce que je pense que voilà, c'est des amis qui m'ont poussé à voir des films ou mes parents ou des proches qui m'ont donné envie, oui, de voir certains films. J'ai eu la chance d'être au lycée dans un quartier où il y avait pas mal de cinéma, où ils faisaient des rétrospectives, où ils passaient ce qu'on va appeler globalement du cinéma d'art et essai. Et du coup, je les ai pas mal fréquentés. Et après, mais je connaissais pas en fait le cinéma documentaire. Je voyais surtout des films de fiction. Et je dirais que je suis venue au documentaire par la politique et à la politique par la philosophie. Parce que pendant mes études de philosophie, je me suis rendu compte justement que ce qui m'intéressait, c'était la philosophie politique. Ça a commencé même d'ailleurs par Platon, donc assez classiquement, on va dire, pour aller ensuite plus vers le marxisme. Et un jour, j'ai un ami qui lui-même était un militant communiste et qui militait beaucoup, qui avait beaucoup lu et qui connaissait bien tout le cinéma militant des années 60-70, qui m'a fait découvrir. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et tout ce que je travaille en philosophie, j'ai envie de le travailler, mais autrement, à travers le cinéma.
Il y a un film en particulier?
Un film, je ne sais pas, mais il y a eu les films de Bruno Mouel quand même. Beaucoup.
Donc, cinéaste militant des années 70.
Ouais. Les films de Chris Marker. Après, plus récemment, toute une partie des films de Denis Gerbrandt, notamment Et la vie, qui est un sublime film. Et je crois que c'est ça que j'essaye de faire aussi, c'est de raconter un peu comment les gens se débrouillent avec la vie. Enfin, c'est ce que j'aspire à faire, en tout cas.
Et toi, Marius?
Moi, comme je disais, c'est plus une passion au départ un peu d'enfance, mais à vouloir faire des petits films entre amis, des films un peu de genre, découvrir un peu une caméra, faire du montage, que j'ai fait vraiment dès mes 11-12 ans, donc, mais vraiment pour m'amuser, et à faire, quand j'étais un peu vraiment jeune, un peu le faillot du cinéma, à lire des premiers livres sur... j'essaie d'apprendre par cœur des noms comme Griffiths ou des trucs comme ça, mais sans forcément avoir vu les films. Et après, au moment du choix des études, je me suis plutôt orienté vers... je savais que j'avais envie de faire du cinéma, mais en fait, pour moi, c'était juste une passion. Et n'étant pas du tout d'une famille où il y a des cinéastes ou quoi que ce soit, j'ai pris une voie plus classique en me disant, y a la vie sérieuse. Et il y a la passion, c'est ce qu'on fait à côté le week-end et tout ça. Et du coup, j'ai fait un parcours plus classique de sciences humaines, sociologie. Et au moment de faire mon mémoire de fin d'études, j'ai pris énormément de plaisir à faire du terrain, à faire de la sociologie. Et du coup, à la fin, je me suis dit, j'ai vraiment envie de continuer à travailler, à découvrir le réel et travailler en rencontrant des gens et tout ça. Donc je me suis demandé si j'avais envie de faire éventuellement un parcours plus universitaire. Et j'ai senti que ça allait pas me convenir. Et donc là, je me suis dit, mais pourquoi pas cumuler les deux? Moi, j'avais continué à faire des vidéos en parallèle pendant mes études pour gagner un peu d'argent. Je faisais beaucoup de films de mariage. Donc j'avais toujours continué à faire de la vidéo. Et donc je me suis dit, autant allier ces deux choses, les sciences humaines et la vidéo, en faisant du documentaire. Mais à cette époque, la vision que j'avais du documentaire, c'était vraiment uniquement ce qu'on appellerait peut-être plutôt du reportage. Donc j'ai essayé de faire un stage vraiment dans une boîte de production qui faisait du reportage télé assez classique. On m'a mis sur un documentaire sur les lapins, film animalier, mais en fait j'ai pris quand même un grand plaisir à le faire parce que je me suis rendu compte que rien que, même sur un film destiné aux enfants à 6h du mat, en fait ça me permettait de rencontrer plein de gens dans des milieux très différents, et du coup je me suis dit j'ai envie de faire ça. Et après j'ai fait un an de spécialisation, et là par contre j'ai découvert ce qu'était le documentaire de création, notamment, je peux le dire, grâce à toi, Edouard.
Grâce à moi, peut-être pas, mais...
En tout cas grâce
à la formation.
À la formation dans laquelle je t'ai rencontré. Donc ça,
en fait, vous avez des parcours un petit peu chassés-croisés, parce que toi, au départ, tu es parisienne, tu viens faire un master documentaire à Marseille, et toi, tu es marseillais, et tu viens faire un master documentaire à Paris.
Bon. Ouais, c'est vrai.
Et deux masters qui sont similaires, enfin qui sont un peu sur la même ligne éditoriale. Et est-ce qu'il y a un film qui t'a... Parce que là, dans les premiers courts-métrages, c'était plutôt fiction, quoi. C'est plutôt ça qui t'intéresse, c'est le domaine de l'imaginaire plus que le réel. Donc est-ce qu'il y a un film qui t'a pas fait bifurquer, parce que ça reste du cinéma, mais qui t'a donné envie de faire du documentaire plutôt que la fiction ou autre chose?
Un film qui m'a donné de faire du documentaire, je sais pas, tu disais sur les fictions, moi je sais que pendant très longtemps, quand j'étais enfant, je disais tout le temps que mon film préféré c'était Itinéraire d'un enfant gâté, avec Belmondo. Je sais pas pourquoi il m'a énormément marqué ce film, il y a une sorte d'épopée, ouais, j'adorais Claude Lelouch, et c'était un peu une des premières fois où quand on essaie de se trouver un peu, quand on commence à aimer le cinéma, on se dit ah, il faut que j'aie mon cinéaste préféré, donc j'adorais Claude Lelouch à l'époque. J'ai pas vu de film de lui depuis très longtemps. En tout cas, c'était ça sur le cinéma de manière générale qui me plaisait. Et après, quand j'ai découvert un peu le cinéma documentaire, je pense qu'il y a un petit peu des premières un peu claques esthétiques avec Chris Marker. Mais je sais que même pendant le master, moi j'ai aussi découvert des formes plus hybrides. J'avais adoré un film qui s'appelle Mirage à l'italienne. J'avais adoré des films comme plus intenses. J'avais découvert aussi qu'il y a des formes très différentes. J'avais un film qui m'a énormément marqué, c'était Enjoy Poverty de Renzo Martins. Voilà des
donc des choses qui sont films. À la frontière, à la lisière de plusieurs genres, avec
j'aime
film bien. Un peu performatif. Et ben justement, puisqu'on se connaît un petit peu mieux, on va peut-être
Avant de lancer le premier extrait pour découvrir le premier personnage solide du film de Marius, puisque là, on voit qu'il y a des croisements. Le but de notre entretien ce soir est de croiser vos deux regards différemment. Ça, c'est vraiment une nouveauté dans l'émission, et on va tenter ensemble de trouver qu'est-ce qui résonne entre vos deux films. Donc on va, à travers cet extrait, on va un petit peu rentrer dans la dans le découvrir le personnage que traite Marius dans son film. Si tu permets, Sidi.
En mars 2020, je commence à filmer Mickaël, mon ami de lycée. Sur Internet, ça fait quelques mois qu'il s'est juré de percer sous le nom de Solid Mike.
Donc en fait, on a pris 5 mm. Moins 4 mm. Grâce à la congestion, j'ai gagné 4 mm de tour. Bon, bien sûr, la congestion, c'est éphémère. Hein. Dès que je serai froid, ensuite que j'arrêterai l'activité, ces 4 mm ils vont repartir. Voilà. L'objectif, c'est de grossir à froid, pas à chaud.
je voulais dire à ceux qui disent que mes mollets sont en retard, en fait, ils sont pas si en retard que ça, hein. Parce que si tu fais la comparaison, il faut que tes mollets, le tour de tes mollets, soit comparable au tour de tes bras et de ton cou. Il y aura toujours cette longue partie au niveau du tibia et de la cheville qui sera fine, parce que c'est mes tendons, ça se muscle pas un tendon.
Tu vois, c'est génétique.
L'excuse, c'est génétique. C'est vrai, c'est génétique, hein.
Voilà, j'avais besoin de dire ça, j'avais besoin de me défendre.
Mais j'aimerais faire la vidéo que je t'ai dit, putain, parce que cette vidéo, ça fait des années que je sais. Des années, ça fait! Où tu like? Tu n'es jamais présent!
Ça fait 3 jours. 13 ans, j'ai toujours
non, été c'est vrai, ça fait à peu près. Non, ça fait 6 mois à peu près que j'ai cette idée de vidéo que j'ai envie de mettre en place, mais que c'est difficile. Parce qu'en fait, on n'a pas de gadget, c'est ça le truc. On connaît aucune fille qui est vraiment amie avec nous.
Qui est fière, oui,
amie. Mais pourquoi, Boudjema? C'est quoi ce bordel?
C'est ça qui me plaît pas d'un côté.
Non, mais on n'a pas d'amis-filles. À chaque fois, on sort avec une fille, après ça se termine. Tu vois ce que je veux dire? Non, Corinne, elle va péter un câble, elle va dire j'ai envie de rentrer au bout de 5 minutes. Mais ouais, c'est vrai qu'on a Corinne en fait en amie-fille là. On peut dire que c'est notre amie là.
On a que Corinne, mais bon.
Ouais, non, c'est pas notre amie, mais.
Mais est-ce que c'est utile de faire des vidéos aux conséquences chaque fois pour qu'on attire des filles qu'on attire Bekenwelu? On n'attire personne. Donc, lui, c'est la gloire, mais les filles, il n'y a aucune qui soit intéressée. La fille, elle était là. Après, c'est dégoûté de mettre un abonné pour dire ouais, je t'abonne, mais je ne regarderai pas tes vidéos.
Alors, voilà, donc, petite entrée en matière avec. Solid Mike, Mike Michael, ton copain d'enfance, ton copain de collège. Et Mike, enfin Michael, il a beau avoir 270 000 abonnés qui le suivent sur sa chaîne YouTube, 30 millions de vues, toujours sur sa chaîne YouTube, et pourtant, ça ne l'empêche pas d'avoir des difficultés. Ils le disent, on n'a pas d'amis-filles. Donc malgré les muscles qui gonflent, etc., on sent, petit dans le film, une faille.
185 mètres de taille, ouais. 85 kilos, et il fait la promotion de programmes de musculation faciale, enfin, des extensions musculaires. C'est vrai que j'étais surpris de voir le résumé du film, comme c'est présenté sur... c'est le gars qui roule des mécaniques. Il y a toujours quelque chose autour de la mécanique chez toi, Marius.
Ouais. Alors, justement, alors, la question, c'est parce qu'au départ, on se dit, il est un peu tête à claque quand on le voit mesurer ses mollets. Il est obsédé par l'image qu'il produit auprès de ceux qui le suivent. Donc, à quel moment tu t'es dit, tiens, il y a un film à faire sur ton pote d'enfance?
Je pense déjà c'est le fait de connaître la personne intimement et savoir ce qu'il y a derrière, ce qu'il peut renvoyer sur les réseaux sociaux. Et moi je me rendais bien compte que ce qu'il renvoie sur les réseaux sociaux, ça peut être interprété différemment sur les publics. Donc oui, il va avoir un nombre assez conséquent de fans, mais qui vont souvent être tout le temps quasiment des hommes, adolescents et tout ça... qui vont vraiment apprécier ce qu'il fait, mais en même temps il y a aussi tout un panel de personnes qui pourraient facilement soit se moquer des gens qui font tout pour le muscle, ou qui pourraient se moquer de sa manière de faire des vidéos ou des sujets qu'il traite. Et moi, connaissant le personnage de manière plus intime, je savais qu'il y avait aussi d'autres choses intéressantes chez lui qui pouvaient ressortir en tout cas à travers un film que je pouvais faire sur lui et d'arriver à montrer les deux facettes du personnage. Donc c'était l'envie, c'était de montrer un peu les multifacettes.
Le personnage public, le in et puis l'off. Mais qu'est-ce que tu as senti chez lui, la faille que tu as senti qui permettait de complexifier le personnage et de ne pas le réduire à un produit interne?
Là, tu en as cité une. Déjà, c'est vrai que Surtout comme c'est un ami que j'ai rencontré au moment où on est adolescent, on se pose des questions de sexualité, sur vouloir rencontrer des filles et tout ça. Je savais que lui, en grande partie, le fait de vouloir se muscler, c'était aussi dans l'intention de vouloir plaire. Et se rendant compte que les muscles ne faisaient pas tout, il s'est dit, bah, il me faut une étape supplémentaire. L'étape supplémentaire, c'est la célébrité. Une fois qu'il avait muscles et célébrité, il se rendait compte que ça n'était pas encore tout. Et là, était en grande partie une des failles, mais je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres. Il y en a d'autres dans le film, mais en tout cas, ça, c'est une des principales qui est traitée dans le film. Et en fait, c'est après avoir fait tout ça, je me rends compte que ça n'est toujours pas l'opulence. Et du coup, quel est le problème? Et donc, ça force une remise en question. Et je pense que c'est aussi ça le principe de beaucoup de films. C'est un personnage qui est confronté à un problème et il va se remettre en question et il va, parcourir un chemin.
Est-ce qu'il a vu le film, Mike?
Ah oui, bien sûr. Oui, il l'a vu plusieurs fois.
Parce que...
Il a fait des projections familiales et tout ça.
En fait, oui, il est entraîné dans une mécanique aussi. Je reviens toujours à ce mot. Enfin, c'est un engrenage. Il devient solide. Il veut faire le buzz. Il l'a fait. Et il y a tout ce monde sur Internet, tous ces fans qui le portent. Ils sont catégoriques. Ils disent tous solide, Mike, tu vas percer encore plus. Donc il est pris dans un engrenage fatal, parce que peut-être cette faille qui traverse tout le long de leur quête dans le film, la quête de est-ce que c'est la féminité, est-ce que c'est la masculinité, ou est-ce que c'est les deux peut-être, mais on ne sait pas où il est entraîné finalement. Il est sous une emprise, comme il a dit, Edouard, au départ, mais il ne sait pas où ça l'entraîne. Est-ce qu'il a cette réflexion, Michael?
En tout cas, effectivement, comme tu disais, il est poussé par ses fans. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes se mettent en scène sur Internet. C'est qu'à un moment donné, ils ne vont pas être seuls avec eux-mêmes. Ils sont, eux, avec les gens qui les valident ou non par commentaire et qui vont les pousser à aller plus loin et qui finalement se mettent à orienter un petit peu leur parcours de vie. Comme tu dis, c'est ça aussi qui est étonnant dans la célébrité un peu de personnages sur les réseaux sociaux et tout, c'est que il y a des fois des adolescents qui vont se mettre à se transposer dans les personnages qu'ils voient et du coup à les soutenir bec et ongle en disant tu vas percer, et du coup en fait ils se retrouvent avec un nombre énorme de gens qui lui apportent la motivation en lui disant tu vas réussir, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais en même temps en lui donnant des directions, en lui disant est-ce que tu pourrais pas faire ci, est-ce que tu pourrais pas faire ça, et du coup je dirais pas que c'est forcément un engrenage, mais en tout cas ça l'a poussé à aller plus loin et à faire des vidéos où il allait enlever le t-shirt devant des filles dans la rue et tout ça. Enfin, il y a tout un truc où il est porté par les gens qui ont envie de le voir aller plus loin. Et du coup, il se retrouve. Et je pense que c'est aussi pour ça que des fois, certaines personnes qui peuvent être timides dans la vie réelle, entre guillemets, se mettent à faire des vidéos sur Internet. C'est que d'un coup, ils ne sont plus seuls avec eux-mêmes et ça les pousse à aller plus loin.
Tu dis même que. Enfin, c'est lui qui dit même à un moment donné, moi, mes vidéos me permettent à ceux qui me suivent d'apprendre à s'aimer.
Ouais.
Gagner l'estime de soi, comme si l'estime de soi se résumait à la corpulence de ses pectoraux. Et puis, la question, est-ce que ça marche? Parce qu'à la fin, quand même, ça se termine. Ils sont toujours seuls sur le parking, la nuit, et ils n'ont toujours pas réussi à trouver les clés de la séduction avec les filles.
Oui, mais alors sur la fin du film, sans forcément se spoiler aux auditeurs, il y a différentes personnes, selon, je pense, leur propre vécu, elles viennent me voir à la fin du film, elles me disent soit « Oh, c'est terriblement triste comme fin, peut-être la manière dont tu le perçois, il y a une sorte de... Toi, tu vois peut-être une sorte d'échec, mais il y a d'autres personnes qui, au contraire, voient une fin très heureuse où ils sont solidaires entre copains et finalement, malgré le fait que la zone commerciale soit pas très... alléchantes, en fait, ils y créent un petit monde dans lequel ils s'amusent et tout ça. Et du coup, il y a un peu, je pense, une ambiguïté à la fin. Et du coup, c'est pas forcément un échec. Et même sur le truc de dire d'apprendre à s'aimer soi-même, je pense qu'aussi le film montre que Michael est aussi quelqu'un d'intelligent et qu'il a très bien compris que c'était pas uniquement le muscle qui permettait de s'aimer soi-même. Et justement, ce qu'on découvre au fur et à mesure du film, c'est qu'il a un discours en réalité plus subtil sur la manière de s'accepter et que lui, parce qu'il y a toute une dimension aussi au travail dans le film, et que pour lui, faire des vidéos avec une régularité très importante à ce tu as la tâche, c'est que pour lui aussi, s'aimer soi-même, c'est aussi avoir une discipline de soi, ouais, et à se forcer à travailler et lui-même, je pense, à progresser en se forçant. Et c'est une grosse thématique qu'il exploite un peu dans ses vidéos, c'est le fait de s'aimer soi-même, mais avec une forme de dignité par le travail, par le respect de soi, par et donc en fait ça va, en fait le muscle c'est plus une forme d'hygiène de vie plus que le pur bonheur d'avoir du gros muscle, même si au départ à mon avis c'était ça sa motivation, mais il s'est rendu compte que ça allait plus loin.
Et toi Clara, est-ce que tu as vu le film
Le Marius? Oui, bien sûr.
D'accord. Oui. Au fur et à mesure, donc on va coudre, on va en discuter ensemble. Maintenant, pour nos amis auditeurs, on va regarder, on va traverser la France du sud au nord, de plan campagne à la périphérie de Marseille, vers le nord de la France, à Lens exactement.
Lens,
Lens, oui. Mmh. Découvrir le personnage de Sheila.
Donc je me suis remis avec monsieur.
Oui.
J'ai remis un bébé là, il y a 4 mois. Et monsieur est parti du domicile il y a 1 mois avec une autre femme.
Ok, donc là, il faut saisir le juge. Alors, faire
ah oui,
5
mais là, ça sera vraiment un week-end sur deux et rien d'autre. Je veux un droit de visite chez leur grand-mère, qui ne les prenne pas à dormir.
Vous voulez garantir les droits du père, finalement, ouais, le maintenir le lien avec ses enfants, ce qui est tout à votre honneur. C'est d'ailleurs... j'allais dire une obligation qui est dans le code civil, donc finalement vous appliquez la loi en faisant ça. Donc la seule chose que je peux demander, c'est un droit de visite, et puis entre guillemets suggérer que si on accepte que ce droit de visite se fasse le week-end, c'est parce que la grand-mère est là en fait.
Ouais.
Voilà. Mais en même temps, par exemple là chez la grand-mère, comment ça se passe? Vous avez confiance en madame, c'est ça? Elle vient dormir et tout, donc...
Si je veux dire que je vais être hospitalisée tout ça, la seule personne qui aura mes enfants, c'est la grand-mère paternelle. Ça sera même pas mes propres parents, moi, tout ça, ça sera que la grand-mère paternelle. Et puis le début, c'est elle qui est venue au foyer avec moi, tous mes rendez-vous, là, tout le temps, fait tout avec moi.
Après, il y a une possibilité, mais c'est parce que ça me gêne d'aller sur ce terrain-là.
La grand-mère, en fait, je veux le dire, j'ai vraiment entièrement confiance. On a même passé, c'est l'enfant de la DAS comme moi, je suis l'enfant de la DAS aussi. Elle a eu ce pareil avec son papa, monsieur, des violences conjugales aussi avec lui.
Alors c'est une question stupide, mais dans quelles conditions vous avez été amené à renouer avec monsieur Cholin? Parce qu'il y avait quand même un... Enfin, je n'ai pas le souvenir exact de tout.
Ah, on était parti pour foyer, pour violences conjugales avec lui. Mais après, je dirais, on s'est remis ensemble, tout s'est bien passé et tout ça. Je lui ai donné sa chance et là, paf, ça recommence.
Enfin, ça recommence, pas tout à... Enfin, il n'y a pas les violences cette fois-ci.
Verbal, chapeau.
Il n'y a pas de violence physique?
Non, que verbal.
Après, il avait entamé un travail sur lui-même ou pas du tout? Il a vu des psys?
Rien du tout. Il a fait 5 pancréatites en 1 an de temps.
Donc il y a toujours l'alcool qui est là? Parce que là, du coup, moi, je pense que... Enfin, je sais pas, il faut qu'on en discute, hein, mais... il va falloir le préciser dans la requête.
Oui.
Et vous pensez que les violences, elles étaient liées à...
À l'alcool, attends.
Oui.
C'est-à-dire qu'il boit pas, en fait, il est gentil.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Quand il boit pas...
Ah, on peut lui demander tout ce qu'on veut, il va faire des travaux à la maison, il est vraiment gentil, respectueux, tout ça. Mais dès qu'il boit, il n'y a plus de William.
Et quand vous êtes remis ensemble, il avait stoppé sa consommation?
Ah non, il avait diminué.
Bon.
Et après, au fur et à mesure du temps, c'était monté à 2 canettes de 50 centilitres, 5 canettes de 50 centilitres, après c'était monté à 10. Et le week-end, c'était un pack de 20 ou...
Et c'est une question stupide, mais pourquoi vous êtes remis avec lui, en fait? C'est une question qui est peut-être déroutante, hein, vous n'avez pas l'obligation d'y répondre.
C'est parce que, effectivement, en fait, pour moi, quand j'ai eu un passé bizarre avec mes parents, je me dis, voilà, j'ai un enfant avec monsieur, donc en fait, je me disais, voilà, l'enfant a besoin de son père et de sa mère, donc il faut que je fasse pour que tout va retourner bien dans mon couple, et puis voilà, quoi.
Voilà.
là, dans ton personnage, Clara, Sheila, elle a 23 ans quand tu la filmes.
Oui, quand je la rencontre.
Et là, donc de cette forme d'emprise dont le personnage Michael, solide, cette image de soi et ces représentations qui peuvent nous entraîner dans des mécaniques, on passe à en entendant cette conversation entre Sheila et son avocat, parce que c'est quand même le récit de 4 années de vie de cette jeune femme. Elle tente de s'émanciper et elle désire, toujours elle est en désir de garder sa famille, de garder son mec, et surtout elle aspire à la justice. Et elle se confronte à ces mécanismes de l'emprise, de la dépendance.
Alors je ne sais pas si elle est toujours en désir, parce qu'effectivement il y a plusieurs années où c'est très très compliqué pour elle de pouvoir s'imaginer ne plus être avec lui, et surtout ne plus faire famille, ne plus avoir ce modèle-là, qui est justement pas forcément, elle, ses parents sont encore ensemble, mais son père à elle n'avait plus le droit, avait eu des enfants d'un premier mariage qu'il n'avait plus le droit de voir, et ça a été extrêmement traumatisant pour lui. Donc il lui a toujours dit aussi, c'est très important que tes enfants continuent à avoir leur père. Et du coup, chez elle, il y a cette peur, oui, de couper le père de ses enfants, de ses enfants. Et il y a aussi tout un processus beaucoup plus intériorisé autour de l'idée de ce que doit être le couple, autour aussi de la fonction et de la condition féminine. Elle a grandi dans l'idée qu'une femme, avant tout, son rôle, c'était de devenir mère, de fonder un foyer. Et du coup, ça complique énormément la possibilité de se figurer. Enfin, Sheila, elle se dit qu'il vaut peut-être mieux subir des violences, mais faire famille, quitte elle à être victime des coups de son compagnon. Et l'emprise, elle se situe vraiment à ce niveau-là. Après, justement, il y a une grosse prise de conscience au fur et à mesure des années. Et elle se rend compte qu'en fait, c'est pas bon pour ses enfants d'assister aux violences. Alors, il n'était pas violent vis-à-vis des enfants, mais que ça peut... Que sans forcément couper complètement les liens entre le père et les enfants, les faire grandir dans un noyau familial où il y a autant de violence entre les parents, ça peut pas être bon. Et c'est là où elle décide justement de le quitter, une bonne fois pour toutes, et de mener tout le processus judiciaire. Alors d'abord pour obtenir la garde de ses enfants, et puis au fur et à mesure du temps, elle se dit bah non, en fait, il faut effectivement faire justice. Et du coup, elle porte plainte contre lui pour les violences.
Oui, et entre-temps, quand même, il y a une vaste hésitation. Elle se dit qu'elle ne peut pas rester avec lui parce qu'il est violent. Et en même temps, il y a une ellipse et on la retrouve. Elle est revenue avec lui et elle a fait un deuxième enfant avec lui. Donc, ce n'est pas si simple que ça. À un moment effectivement, ça bascule. Et là, elle est déterminée à entamer une procédure. Oui. Mais jusque-là, elle avance, elle fait un pas en avant, elle fait deux pas en arrière. Et effectivement, tiraillée entre ce désir de famille unie, de modèle... fantasmé, parce qu'elle ne le connaît pas, puisque visiblement il y a une reproduction dans sa famille, que sa propre mère a aussi été victime de sévices, etc. Et donc elle est complètement travaillée comme un personnage de tragédie, en fait. Et nous, on est encore plus pris qu'à un moment donné, quand elle revient avec son mari, je ne sais pas comment son compagnon, on est là, mais qu'est-ce que tu fais ? On est pris, on est complètement impliqué émotionnellement dans le film, jusqu'au moment donné où là, il y a un truc de trop et elle se décide à vraiment passer à l'acte. Quoi.
En fait, nous, Sheila, parce que du coup, c'est un film que j'ai co-réalisé avec Paul, et on l'a rencontré dans un foyer pour femmes. Alors, pas que des femmes victimes de violences conjugales, mais quand même la majorité des femmes qu'on a rencontrées au foyer étaient des femmes qui avaient été victimes de violences. Et c'est vrai que quand on la rencontre, elle tenait un discours où elle disait « j'ai la rage, c'est trop injuste, c'est lui qui a été coupable et c'est moi qui me retrouve à vivre dans un foyer alors que lui, il est tranquillement dans l'appartement. » Et elle disait « je ne m'en remettrai jamais avec lui ». Et en fait, assez vite, déjà nous, on a quand même rencontré beaucoup d'autres femmes aussi et on s'est rendu compte que la majorité d'entre elles soit retournaient avec leur ex-compagnon violent, soit se mettaient avec un autre type, mais qui souvent s'avérait violent assez vite aussi. Mais bon, voilà, Shaila nous livre ce discours-là, d'ailleurs beaucoup plus véhément chez elle que chez la plupart des autres femmes qui étaient là, en disant « moi, c'est fini pour de bon cette fois, jamais j'y retourne ». Et puis finalement, en fait, en quelques mois, on sent déjà qu'elle y retourne un peu, qu'ils se réécrivent, qu'ils sont en train de se retrouver, en fait. Et là, elle obtient une maison donc à son nom, à elle, ce qui était la première fois de sa vie. Elle se fait refaire des papiers et tout ça. Elle emménage dans cette maison. Et là, en fait, il est revenu. Il est revenu, il s'est réimposé. Et effectivement, du coup, il y a eu un petit temps, on n'avait plus de contact avec elle. Parce qu'en sortant du foyer, elle nous donnait plus de nouvelles. Alors qu'on avait commencé à la filmer, tout ça. Et en fait, on va frapper à sa porte. On lui dit, bah voilà, nous, on voulait continuer le film avec toi et continuer à te voir. Elle nous dit, bah en fait, j'avais honte. Parce que je me suis remise avec lui, et du coup, je pensais que ça ne vous intéresserait plus. Et c'est là où nous, on a pu lui expliquer, mais en fait, nous, on comprend toute la complexité de ta situation. On n'est pas là pour venir poser un jugement, et justement, ce qui nous intéresse, c'est de raconter tes tentatives. Et en fait, on imagine aussi que peut-être que si tu t'es remise avec lui, c'est parce qu'il y a des choses qui ont changé. Et effectivement, il y avait des choses qui avaient changé, parce que quand on l'a rencontrée, elle disait qu'elle était séquestrée, qu'elle ne voyait jamais d'amis, elle n'avait pas de moyens de paiement. Et en fait, là, quand même, les quelques mois dans le foyer ont permis une indépendance beaucoup plus grande, même si les violences sont revenues par la suite. Mais les situations étaient quand même clairement différentes. Là, elle se remettait à avoir des gens, à avoir des amis, notamment une amie qu'elle s'était faite au foyer. Bon, voilà, il y avait quand même eu des changements. Mais effectivement, elle se remet avec lui, elle retombe enceinte. Et là revient toute l'idée que non, c'est impossible de se séparer, mais les violences reviennent aussi. Jusqu'à ce qu'elle finisse un jour par décider non, là, c'est trop. Mais il y a eu beaucoup d'allers-retours.
Oui. Oui, il y a ce temps quand même lent de réflexion sur soi-même et de réflexion qui laisse le temps au personnage de se redécouvrir. Mais l'action du cinéaste, quand même, l'action de filmer ces personnages, quand même, elle est... Elle rend possible peut-être certaines réflexions sur soi et sur ses pratiques. Je propose de lancer le...
Alors, juste un truc pour faire le lien, parce qu'on va avoir deux extraits là, de nouveau de Solide.
Exact.
Mais il y a un lien quand même, c'est pas si décousu que ça. C'est que là, il y a une vision de la famille unie, on se raconte des histoires. Et puis, du côté de Solide... et de ses potes, il y a aussi une vision de ce que doit être un homme. Et là, on va écouter donc un extrait où Solide est en compagnie d'un youtubeur parisien, et ils échangent sur les bonnes manières de faire le buzz.
Dans les deux cas, en tout cas, il y a une vision effectivement de ce que devraient être les relations de femmes, et dans les deux cas, il y a en partie une méconnaissance de l'autre, et qui implique du coup plein... pas forcément d'erreurs, mais en tout cas de mythes de ce que devrait être une vie de couple. Et donc dans les deux cas, ça apporte des problématiques.
Et aussi de ce qui est censé être un homme et de ce qui est censé être une femme, et pas si lointaine.
Donc on va écouter deux séquences qu'on a regroupées. Une séquence donc avec un youtubeur et l'autre séquence avec un follower qui branche Solide, Mike, dans la rue. Pour lui témoigner de son de sa sympathie et lui poser quelques questions. On écoute.
Okay, tu l'as vu le Fight Club, le film, ou pas?
Bah,
tu l'as vu?
C'est une base.
Ouais.
C'est une base.
Mais j'ai l'impression qu'on a besoin du Brad Pitt. Et je pense que c'est là que tu joues ton rôle.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait,
tu es un peu le Brad Pitt.
C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Et on me l'a dit hein, on me l'a dit dans les commentaires. Mais en fait, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a presque une gêne à être justement viril et masculin. Tu vois, et aujourd'hui, limite, dès que tu commences à taper du poing sur la table, dès que tu commences à justement laisser sortir ce côté masculin, ce côté révolutionnaire. À l'époque, quand il fallait aller se taper, c'est pas les femmes qui allaient se taper, c'est les bonhommes, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'on a ce côté-là justement en nous. Mais la plupart des gens aujourd'hui ont peur de le laisser sortir. Et quand t'arrives et que quelqu'un dit ce que justement ce Brad Pitt au fond de toi ressent, mais que t'oses pas laisser sortir en temps normal, tu fais « En fait, je suis pas fou. En fait, je suis pas fou, je suis pas le seul à penser comme ça. » Et je pense qu'ils se sentent moins seuls. Ils sentent qu'ils font partie d'une communauté. Et je pense que nos vidéos, qui sont en soi du virtuel, ont un impact ultra réel.
YouTube depuis.
Attends, la vidéo, la toute première vidéo, je crois c'est quand tu débâchais dans les rues de Aix.
Ah,
je crois celle-là. Depuis celle-là, j'ai regardé, je me suis dit, lui, j'ai regardé 2-3 vidéos, je me suis dit, ah, lui, c'est un fou, lui, c'est bon, on va le suivre,
on va bien rigoler.
Même, tu sais que j'ai toujours voulu te... Ah ouais, ça aussi, j'ai voulu te le demander. Comment tu fais pour aller voir les filles comme ça? T'as vu, genre... Parce qu'à chaque fois, t'as vu, quand je suis pas devant elle, je me dis, ouais, je vais faire ça, c'est je vais être naturel, ça passe. Et une fois devant elle...
Ouais.
Au revoir.
Oh, mais c'est plus facile avec une caméra, tu vois, il y a un contexte. C'est contextualisé. À la base, tu t'es abonné par rapport à des conneries, tu vois.
Des conneries, tu vois, mais petit à petit, genre, j'ai appris à te découvrir. Et je me suis dit, non, derrière un clown, il y a un vrai mec avec un vrai cœur. Et ça fait plaisir de rencontrer les gens comme ça. C'est rare, en vrai. Tu sais qu'en vrai de vrai, c'est rare maintenant de rencontrer des gens vrais, que tu peux faire confiance, que tu peux te livrer à eux. Tout ça, c'est hyper rare. Et d'avoir un mec comme ça, ben... Je me dis au moins, l'humanité, elle est peut-être pas perdue encore. Mais en tout cas, ouais, ça, je vais pas te retenir plus longtemps, mais franchement, t'inspires que des bonnes choses. Et je prends fort exemple sur toi.
Ah ouais?
Ouais, vu que j'ai pas été, genre, fils unique, genre, vu que t'es un peu plus grand que moi, je me reconnais un peu en toi dans ta façon d'être. Du coup, je me dis, ah, c'est un peu comme mon grand frère. Je le connais pas, mais moi, je le connais. Tu vois.
En tout cas, moi, en personne, j'ai pas vu le fight de Brad Pitt. Qu'est-ce que tu en penses, Clara?
De la conception des hommes que... Bah, moi, je la trouve évidemment compliquée et problématique de pouvoir voir l'aspect révolutionnaire dans une virilité... Enfin... Oui, je pense qu'on peut dire masculiniste, quand même. Après, qui me rappelle beaucoup justement, enfin, j'imagine qu'on va entendre, mais la conception de ce que doit être l'homme qu'a par exemple Shayla. Et je pense que voilà, il y a quand même beaucoup de processus de déconstruction en cours où il y a, enfin, c'est paradoxal parce qu'il y a effectivement justement plein de processus qui sont en cours où beaucoup de gens se rendent compte que non, on n'est plus censé être dans des telles conceptions virilistes. Et en même temps, il y a tout un regain aussi en face des positionnements masculinistes et sexistes, peut-être en réaction aussi à toutes ces avancées. Donc, mais en même temps, justement, chez Swinmec, j'ai pas l'impression qu'il défende ça non plus tant que ça, que quelque part, on lui fait aussi porter un discours qui n'était pas le sien au départ.
Bah, je pense que c'est vrai, aujourd'hui il y a aussi beaucoup, effectivement quand tu dis dans la déconstruction et tout ça, il y a beaucoup un discours théorique qui est très présent aujourd'hui dans la société et qui va effectivement un peu polariser le débat et du coup faire soit des positions opposées de gens qui disent bah, comme tout le monde veut tout déconstruire, je vais faire exactement l'inverse et vice versa. Et je pense aussi, à côté de ça, il y a aussi l'avis de gens qui sont plus ou moins soit gentils, soit plus ou moins humains. Et malgré toutes les théories qu'on peut leur mettre dans la tête ou non, à un moment donné, il y a une humanité chez certaines personnes qui font que, peu importe ce qu'on leur met dans la tête, ils savent à un moment donné eux-mêmes poser une frontière entre quand même ce qui est bien ou ce qui est mal. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre cette confrontation entre Mickaël et ce personnage beaucoup plus masculiniste, qui lui se nourrit beaucoup de théories très américaines, de la droite dure américaine, et qui est dans un même positionnement sur YouTube que Mickaël, mais beaucoup plus dans la théorie. C'est quelqu'un qui va avoir vraiment des idées très affirmées sur les rapports hommes-femmes et sur pas mal de choses. Et donc lui, ça va vraiment être d'ailleurs son nom sur YouTube, c'est Killian Sensei. Killian, c'est son prénom, et Sensei en japonais, ça veut dire le maître à penser. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui considère qu'il doit semer des graines dans le cerveau des jeunes adolescents qui l'écoutent, et du coup vraiment dans un contre-discours par rapport du coup à l'autre face du pôle, que serait plutôt des discours de déconstruction, woke pour certains. Et du coup, lui, il est vraiment dans une sorte de combat idéologique. Là où Michael, lui, est beaucoup plus dans une sorte de... c'est une éponge qui va se nourrir de ce qu'il reçoit, mais du fait de ses, son ancrage familial, du fait des valeurs qu'il a acquises, il va peut-être avoir une certaine vision de l'homme et de la femme, mais il va toujours savoir poser une limite et il va juste plutôt recevoir des discours qu'il va un peu rebalancer sur sa chaîne YouTube, mais sans avoir une vision vraiment très théorique. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces deux personnages vraiment du théoricien et de l'homme qui est face à son temps, face à son milieu social et qui en fait pourrait être une girouette selon le monde dans lequel on est, mais qui à un moment donné a les pieds sur terre et qui va pas dépasser une certaine limite.
Mais là il y a deux réactions, parce qu'il y a le masculiniste qui lui a besoin de se rassurer avec des normes très basiques et caricaturales. Puis il y a le deuxième quand même qui dit « Mais comment tu fais toi pour parler aux filles ?» Et donc on sent que d'abord il y a une peur des femmes et qui ne sait pas comment vaincre cette peur en fait, et dépasser le stade de la méconnaissance, du fantasme de la femme, du fantasme de l'homme. Et donc quand même ce qui est intéressant, ouais, c'est ils sont assez vulnérables en fait, et puis Michael aussi.
Bah, le deuxième, il est plutôt dans... Là, quand j'ai un peu dressé deux camps, entre guillemets, le deuxième, il est plutôt un peu comme dans le camp de Michael, c'est-à-dire qu'il se dépatouille avec l'offre de la manière dont s'articulent les relations sociales dans le milieu qu'il a appris. Et du coup, comme ses relations sont compliquées dans ce qu'il a appris, en fait, il n'arrive pas trop à les gérer. Mais lui, en fait, il n'est pas le fan de l'abonné de Michael qu'il rencontre, il n'est pas dans la théorie ou quoi que ce soit, il est juste en train de se dire « Bon, bah merde, j'y arrive pas, ouais. J'y arrive pas par rapport à un schéma qu'on m'a appris. »
Après, il y a une certaine candeur quand même de dire que c'est Michael qui va lui apprendre, lui donner les clés, le mode d'emploi pour séduire les femmes.
Bah, après, là, c'est tout le pouvoir de l'image, c'est que c'était justement ça sur le double personnage de Michael, c'est qu'il y a Michael qui donne une image de lui sur YouTube, et il peut donner l'impression à ses abonnés qu'il a une extrême confiance en lui. Et en réalité, le film détricote ça en partie, quoi.
Il y a aussi une autre problématique qui traverse les deux films, d'ailleurs. On le considère, parce que j'ai entendu que tu as parlé de la question des limites que Michael essaye de s'imposer, et à chaque fois il redresse un petit peu la barre, parce que je m'abstiens, des fois il fait de l'abstinence à certaines pratiques pour voilà, etc. Je pense à l'envers du décor, au miroir de Michael qui est son papa, sauf que il est invisible dans ton film, comme plus tard on va voir aussi qu'il y a un autre invisible dans le film de Clara, qui est Willy, le mari de Sheila, dont elle veut se séparer. Je voulais dire que ces limites aussi, c'est le milieu aussi qui des fois, c'est un rapport en fait de force entre les limites qu'on se donne soi-même et les limites qui nous sont imposées aussi par rapport à l'entourage, puisque Michael, il habite chez son père, n'est-ce pas,
ouais.
Dans cette belle villa, tranquille, il a tout ce qu'il faut, quoi, il a tout.
Il habite chez son père, et même plus, il habite entouré de toute sa famille. Il y a le grand-père qui est juste à côté, il y a l'oncle, il y a les cousins.
Mais c'est un univers exclusivement masculin.
C'est vraiment une... Et voilà, j'allais dire, tu dis que le père est invisible, il est, effectivement, il n'est pas... Il n'est pas ultra présent, mais en tout cas...
On le voit dans un petit moment dans une séquence.
Le personnage, invisible, c'est plutôt le féminin. Ouais. Et du coup, là, c'est vraiment plus un parallèle avec ton film Clara, où tu disais que Willy, le mari, est invisible, donc la figure masculine. Bah, en tout cas, dans Solid, c'est plutôt la figure féminine qui est invisible. Exact. Donc finalement, c'est là où ça se rejoint. Quoi.
Exact.
Pour poursuivre sur comment on peut s'enfermer soi-même dans des représentations et finalement en être victime, en être piégé par la vision qu'on a des hommes, des femmes, on va entendre une séquence entre Sheila et Pauline, qui est sa meilleure amie, qui elle aussi a un peu le même parcours, c'est-à-dire que, d'un compagnon violent.
Elles se sont rencontrées au foyer d'ailleurs.
Elles se sont rencontrées au foyer, d'accord. Et elles discutent entre elles, confidences entre copines.
William, c'est un macho ?
Mais bon, c'est parce que en fait, je pense que j'ai tellement été habitué comme ça au macho, en fait, que moi, une fois macho dans ma vie.
Mais non, justement, non. Macho, ça te sert à rien, macho. Parce que la preuve, rien ne sert de toi, il profite de toi, il te rabaisse tout le temps, il te prive de certaines choses. C'est pas fait pour nous, les machos.
Tous les copains que j'ai eus, ils buvaient tous. Ils m'ont tous frappé. Ils me trompaient à tir l'arigot et je ne disais strictement rien. Ils partaient avec leurs copains et moi, je pouvais pas voir mes copines. Donc moi, un mec qui... normal, on va dire, ben... j'ai pensé quoi. Tu vois la personne, en fait, tu dis, putain, c'est bon, c'est l'homme de ma vie. Après faire la raison du tort, tu dis, en fait, je me suis fourgué dans une merde pas possible. Mais tu te tiens. Même s'il te fait du mal, tu te dis encore. Et tu dis, c'est pas grave, demain, il va arrêter et il sert à même. C'est un cercle vicieux, en fait.
C'est ça. C'est vrai.
Mais je pense que limite, un mec qui va être normal, j'ai trouvé ça chelou, en fait.
C'est pour l'avoir pas vécu.
S'il est trop gentil avec mon coach, je lui dis, écoute, t'as un problème psychologique, t'es pas normal. Un mec repassé, c'est très bizarre. Faire une vaisselle, c'est grave. Faire du linge.
Ah non, faire une vaisselle, j'ai déjà vu. Faire le repassage, la lessive.
Et dans mes culottes.
Et dans nos culottes. C'est bizarre.
Qui prépare notre café le matin et qui nous le touille, quoi. C'est très très chelou.
Bah, c'est peut-être lui qui te fera.
Alors, un mec normal, c'est chelou.
Bah, après, là, il y a quelque chose d'assez ambivalent aussi, parce que en même temps, moi, je disais plutôt que justement, elle, pour elle, un mec normal, oui, c'est un mec qui ne va pas faire certaines tâches, va à la limite s'occuper d'aller au boulot et de ramener l'argent à la maison. Et en même temps, là, elle dit quand même, effectivement, un mec normal, ce serait pas un mec comme les mecs, comme ceux que moi, je considère normaux. Mais enfin bon, voilà, c'est pas... Donc c'est pas non plus qu'elle estime qu'un mec qui fait pas le café ou qui fait pas à manger n'est pas normal. C'est juste qu'elle, elle se dit qu'elle pourrait pas ne pas être avec un mec qui n'incarne pas une certaine idée de la virilité.
C'est vrai que c'est ce qui est intéressant chez Sheila, et c'est ce que tu disais d'ailleurs dans le fait qu'elle a à un moment donné voulu arrêter le film. Parce que finalement, elle avait honte d'être revenue. C'est que elle est, y a quelque chose de schizophrénique où elle est consciente.
Oui.
Finalement, là, quand elle dit un mec normal, c'est qu'elle est, c'est pour elle finalement le machine du type qui va être un peu violent et tout. Elle le voit pas non plus comme une normalité. Elle est consciente de la frontière, mais elle n'arrive pas en sorte, elle n'arrive pas à se mettre du bon côté.
Exactement, oui. Oui, tu dis plus clairement que moi ce que je voulais dire.
Ah, pardon.
Non, c'est bien, ça clarifie.
C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a cette relation toxique qu'il y a entre Sheila et Willy, son mec. Hein, une relation toxique, ça ne marche pas. Enfin, et elle est prise dans cet engrenage comme solide, dans son film, Marius, qui est dans cet engrenage avec de la biomécanique. N'est-ce pas voilà. Donc il y a une emprise, il y a une dépendance.
Enfin, même si on ne peut pas mettre dos à dos les deux situations, parce que dans un cas, quand même, il y a de la violence, quand même. Là, oui, dans Solide, la seule violence qu'il a, c'est une certaine forme d'aliénation par rapport au corps, par rapport à la chaîne YouTube, mais on ne peut pas parler, il n'y a pas de drame, là, quand même.
Oui, et puis il est sous emprise de lui-même, quelque part, ou des représentations qu'il a, mais pas effectivement d'une personne en face qui le violente.
C'est sûr que c'est plus léger.
Mais après, c'est vrai que dans cette scène, effectivement, il y a déjà une prise de conscience, comme tu disais. Chez Sheila, là, effectivement, je pense que ça, c'est une scène qu'on a tournée peut-être au bout de 3 ans de tournage. Il y a déjà, enfin, elle réalise déjà qu'effectivement, il y a des choses pas normales et que quand même, il y a une idée qu'effectivement, le mec est pas non plus forcément. Enfin, peut aussi justement être dans un rapport plus égalitaire, non violent et tout. Ce qui, je pense qu'elle n'aurait pas dit ça 3 ans avant.
Ouais, puis elle prend conscience qu'elle est dans la répétition. Ça, c'est déjà aussi.
Ah oui, oui, elle est assez lucide hein, sur, sur les phénomènes et psychiques et sociaux qui la déterminent.
Je voudrais aussi soulever un autre aspect dans ces relations, la relation solide avec solide, hein, et son entourage, ses amis qui le soutiennent, cette bande de copains. Et Sheila, face à un système juridique qui est... elle est sous le cadenas quoi, entre la police et la justice.
Mais après, il y a toute cette dimension d'amitié aussi, qu'elle redécouvre justement après le foyer et même après la rupture définitive avec William, où il y a la présence de sa belle-mère, qui est donc la mère de William, et qui a pris son parti à elle, sans non plus être en rupture totale avec son fils, mais qui s'est... qu'elle a vécu des violences et qui dit d'ailleurs à un moment dans le film « mon fils c'est un loser, c'est un zéro ». Et qui a énormément aidé et soutenu Sheila et dans son combat et avec les enfants.
Oui, on n'a pas parlé de son fils en fait qui a un handicap, qui a des problèmes de santé à la base.
Elle a un enfant, leur enfant est malade. Ouais.
Les arguments de leur...
En fait, William a essayé de la faire énormément culpabiliser alors que leur fils Melvin, il a la mucoviscidose qui est une... maladie qui vient des gènes, ils portaient tous les deux, et elle et lui, le gène de la mucoviscidose. Et puis bon, de toute manière, je ne crois pas qu'il y ait un parent responsable dans ce genre de cas plus que l'autre. Mais sauf que William a voulu dire à Sheila, enfin a énormément répété à Sheila que c'était de sa faute, et elle-même a été dans un très grand rapport de culpabilité parce qu'elle a cru en fait à ses discours.
Et dans cet engrenage, Sheila se retrouve en train de reproduire le modèle qu'elle a vécu dans son enfance, c'est-à-dire enfant de la DAS. Elle a assisté à la séparation de ses parents, violente. Et elle, enfant, elle a souffert de cette séparation. Donc elle rêve qu'en restant connectée, en restant, en gardant, en se faisant violence à elle-même, elle a peut-être une chance de faire rendre la raison à son mec et pour ses enfants, en fait.
Elle n'a pas assisté à la séparation de ses parents. Ses parents, ils sont restés ensemble, mais il y avait de la violence intrafamiliale. Et surtout, elle a vu son père être extrêmement malheureux de ne plus avoir le droit de voir les enfants d'un premier mariage. Et ça, elle a vu son père, même après des tentatives de suicide, des choses comme ça. Et elle a été extrêmement marquée et bouleversée par cette souffrance qu'elle voyait chez son père. Et elle ensuite, alors elle dit effectivement à un moment dans le film qu'elle est une enfant de la DAS. En fait, c'est pas vraiment une enfant de la DAS, elle a quand même grandi chez ses parents et est élevée. Mais à un moment, à 15 ans, elle a demandé une émancipation parce qu'elle pouvait plus vivre au sein de cette violence. Et en même temps, effectivement, elle recrée un schéma familial où il y a de la violence et où en fait finalement, voilà. Du fait de la violence de William, ses enfants revivent ce qu'elle a vécu enfant.
C'est dingue, ouais. Il y a comme une sorte de transfert de violence de génération à la génération suivante qui n'est pas voulu, qui n'est pas...
Mais c'est le cas de l'autre côté aussi, parce que ouais. William lui-même a été victime de violence de la part de son père. La mère de William a été victime de violence de la part du père de William aussi. Donc oui, il y a des répétitions
à tous les endroits. Et dans le cas de Solide, Marius, Comment il fait à aucun moment il en parle de sa mère, de cette présence invisible de sa maman et de la relation qui est en rupture quoi entre son père et sa mère. Comment il vit Michael cette séparation?
À un moment donné, ça avait été dans la discussion que j'avais avec lui des pistes du film. Ça à un moment donné était une des pistes envisagées à deux de traiter de manière plus frontale dans le film en tout
parce
cas
qu'il vit avec ce manque de voilà. Maternel
après pour des raisons d'intimité familiale et on a décidé de ne pas trop en parler, de ne pas trop dévoiler les raisons du pourquoi du comment. Mais finalement, je me suis rendu compte, d'ailleurs, souvent quand il y a des projections, c'est une des premières questions qu'on me pose. Et donc, en fait, finalement, c'est aussi ça, des fois, la beauté du cinéma, c'est que c'est aussi ce qu'on appelle le hors-champ, ce qui est invisible, qui finalement ressort beaucoup plus. Et finalement, je trouve ça assez bien que, de un, pour des raisons de vie privée, les choses soient pas évoquées et disséquées dans les moindres détails.
C'est la magie du cinéma, parce que le silence en dit largement parfois.
Et finalement, la question est quand même présente malgré tout, donc... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Clara, mais... peut-être, elle voulait dire quelque chose.
Ah bah, moi, je sais que j'ai été très marquée justement par cette question de la mère, alors qu'effectivement, c'est une présence invisible, mais moi, c'est ce qui m'a énormément touchée aussi et interpellée dans ton film et autour du personnage de Mike aussi. Et oui, à quel point, effectivement, il y a toutes les injonctions ou les représentations sociales et, qui pèsent, mais on voit bien aussi à quel point il y a quand même une histoire familiale derrière. Et un manque peut-être de la fille. Alors, je ne sais pas quelle est son histoire exactement et précisément, mais et s'il a connu sa mère, enfin à quel point ou pas. Mais on se dit qu'il y a forcément quelque
un
chose autour
affectif,
de la figure de, qu'il a de la femme qui est liée à ça. Et oui, moi, je serais très curieuse de connaître son histoire. Enfin, ça me donne envie de la connaître, en tout cas. Sans forcément tout expliquer qu'à travers ça non plus. Parce qu'une fois de plus, je pense qu'il n'y a pas que le familial. Il y a aussi le social et tout ça. Mais oui, ça donne très envie d'en savoir plus.
On va écouter peut-être un dernier extrait de Shella, où on voit qu'il y a la violence physique du compagnon, mais il y a aussi la violence qu'elle s'impose elle-même. C'est une scène entre Shella et on ne sait pas qui c'est dans le film, un psychologue.
Alors, c'est un monsieur qui se dit chaman hawaïen. Donc, il y a un cabinet de consultation, de voyance, derrière le salon de coiffure de sa femme, qui n'a pas vraiment de lien avec Hawaï, si ce n'est qu'il a fait une formation là-bas. Et que, alors, je crois qu'il fait aussi justement des vidéos sur Internet, et Shaila avait entendu parler de lui. Elle l'a appelé, ils ont discuté. Un jour, elle nous a appelé en nous disant j'aimerais bien aller voir cette personne.
Alors, se psychanalyser, s'auto-psychanalyser.
À la base, c'était plus parce qu'elle croyait assez à ce truc de voyance, et c'était peu de temps avant le premier procès, la première audience au niveau de la justice pour la garde des enfants. Et elle avait un peu envie que cette personne lui dise si elle allait obtenir la garde ou pas. Et puis finalement, elle y va, et ce rendez-vous qui. Enfin, elle nous dit, elle y va, on y va avec elle. Elle nous propose de venir, et ce rendez-vous qui devait durer une demi-heure dure 3h30. Et elle se livre énormément. Et la personne en face, oui, en fait, prend une position de psy. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, en fait, c'était elle qui voulait se livrer. Et peut-être aussi qui voulait se livrer à la caméra. Et comme nous, on n'était pas dans un dispositif d'entretien ou de choses comme ça. J'ai l'impression que c'est le moment qu'elle a saisi pour dire des choses à elle-même. Et peut-être sans que ce soit théorisé comme ça chez elle, à un spectateur potentiel. Mais c'est mon hypothèse. Hein. Mais...
Okay. On écoute.
Oui, il y a un jeu de cartes, hein, le psy. Là.
C'est surtout en fait que, ça je voulais voir avec vous, par rapport aux cartes,
ouais.
C'est par rapport à monsieur en fait, s'il y a un retour, c'est tout le temps ça le truc qui arrive tout le temps dans ma tête.
On va regarder ça. Est-ce que vous voulez vous réellement un retour ou pas?
Je sais pas encore.
Pourquoi?
Je me dis oui, mais moi je veux faire pour moi en fait la vie de famille, voilà, j'ai eu lui avec mes enfants, il faut que je reste comme ça avec lui. Et s'il m'a fait du mal, il faut quand même qu'il revienne en fait.
Pourquoi?
Moi, comme j'ai vu mes parents qui ont eu des enfants, ça s'est séparé, ils ont refait des enfants en cours, moi, je ne vais pas faire pareil avec mes enfants, en fait.
Donc, c'est-à-dire que si vous restez avec, vous êtes capable d'accepter l'inacceptable?
Oui.
Ouais. Donc, en gros, vous allez montrer à vos enfants ce que c'est l'amour?
Ah non, c'est pas comme ça que je vais faire montrer. Quoi. En gros, c'est quand je suis avec lui, il faut tout est beau, tout beau, tout rose, et après, il faut qu'ils ne soient pas là quand il se passe des choses. Quoi.
D'accord. Et vous allez jouer une pièce de théâtre toute votre vie? Est-ce que vous êtes comédienne? Non. D'accord. Est-ce que, donc en fait, indirectement, vous reprochez vos parents de vous avoir fait vivre tout ça?
Ah bon, oui, parce que ça m'a carrément posé ce qu'ils m'ont fait, quoi. Mais après, j'ai dit,
D'accord.
Il y a trop de trucs, même des choses qui n'ont même pas été dites et que j'y suis passé en tant que ça, en fait, mais.
Ok. Donc en fait, ce que vous voulez faire, vous voulez refaire exactement la même chose que vos parents?
Non. Ça, je veux pas.
Et pourtant, c'est ce que vous dites.
Oui. Ouais, c'est contradictoire ce que je dis.
Alors, fermez les yeux. Vous vous reposez la même question, d'accord? Vous posez la question à ce cœur. Est-ce que je retourne avec? Et vous pensez à tout ce que vous avez vécu avec?
Une fois que vous avez la réponse dans le cœur, vous posez exactement la même question à la tête.
C'est vide.
Vide ? Alors, donc, on va aller voir le retour de monsieur. D'accord ? On va aller tirer les cartes. Je vais tirer les cartes par rapport au retour de monsieur. OK ? Et après, on va aller travailler sur la violence. Parce que ça, faut vraiment... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont blessé dans l'enfance ?
Il n'y a pas eu de justice, déjà, aussi, par rapport à... Je pense que tout le mal qu'elle a eu, ça... Ma mère, en fait, c'est... Elle nous a tout mis sur nous. Parce que ma mère s'est fait violer par son père. Toutes ses sœurs sont fait violer. Il y a une de ses sœurs qui est tombée enceinte, donc ça fait un enfant consanguin, ouais. Et ça je l'ai su il n'y a même pas 4 ans en fait. Pour moi c'était comme une tante en fait, je voyais bien qu'elle était handicapée, j'ai su que c'était un enfant consanguin. Et ce qui m'a plus choqué là-dedans, c'est que ma mère avait laissé dormir chez cet homme en fait.
Donc vous avez un problème avec la justice et l'injustice.
Ouais. Alors là je passe au tribunal demain pour les petits. J'ai dit d'avance que je vais avoir plein de problèmes et la semaine prochaine, je pars au commissariat de Lens pour la plainte de monsieur que j'ai fait pour les violences conjugales. Mmh. Et je trouve que ça va vous dire à rien, en fait.
Pourquoi ?
Ça va être classé sans suite, j'en suis sûr.
Qui vous a dit ça ? Ouais. Pourquoi vous partez déjà pessimiste ?
Parce que pour moi, c'est pas un truc reconnu, vraiment, en fait, ce truc, là.
C'est de plus en plus reconnu.
Ils m'ont dit que c'était des faits trop loin, aucune preuve, donc...
Ouais, mais au moins, il y a déjà des traces, en fait, qui sont là. D'accord ? On le voit de toute façon. Indirectement, je le vois à travers vous. Vous dites, j'en ai marre, mais vous avez envie de vous battre quand même. Mmh. Donc, si vous avez envie de porter plainte, vous portez plainte. Si vous n'avez pas envie, c'est comment vous...
En gros, moi, j'ai porté plainte parce que, voilà, je lui ai demandé qu'il se calme, qu'il arrêtait de me mépriser, mais me rabaisser plus bas que terre. Je lui ai demandé plusieurs fois. Et il continuait. Donc, je lui ai dit, écoute, je porte plainte contre toi pour les violences conjugales. Il ne m'a pas cru. Et là, quand il a su que j'avais quand même fait... Là où il s'est dit, bah, en fait, c'est bon, elle met la machine dans le monde.
Bien sûr. Est-ce que demain, si vous retournez avec monsieur, je vous pose des questions pour que vous preniez conscience de la chose. Est-ce que demain, si vous retournez avec monsieur, vous êtes capable de subir un nouveau décompte ?
Oui.
Oui ? Mmh. Peut-être jusqu'au coup fatal ?
J'y ai pensé, ouais.
Et même malgré ça, vous voulez y aller ? Et si je dis demain, vous changez et vous pouvez trouver quelqu'un qui vous respecte, vous faites quoi ?
Pour moi, ça sera du mensonge.
Pourquoi ?
Parce que pour moi, c'est...
Donc une scène très forte. On va peut-être... pour que chacun, chacune la digère, faire une petite pause musicale de Asturias, qui est une musique que Marius a choisie pour Solide.
L'intermède. Oui.
Et qui va nous permettre de digérer un petit peu ce qu'on vient d'entendre et de se revoir un petit peu en pleine figure. Thank you.
Oui, voilà, d'escalade en escalade. En fait, quand on est pris dans un engrenage, dans la vie, on a l'impression souvent que plus on s'approche de solutions qui peuvent nous ouvrir vers d'autres cheminements dans la vie, et plus les difficultés deviennent plus lourdes, plus il y a d'autres difficultés qui ressurgissent et qui nous font barrage dans la vie. Franchement, je trouve Sheila d'un grand flegme, d'un grand charisme, une personne discrète, mais en même temps très réfléchie, même si elle est sous une forme, plus qu'une emprise, mais une dépendance, quasiment, je dirais.
Bah, je pense que ce qu'on entend dans cette scène, oui, c'est qu'elle prend, tout en étant consciente et lucide, elle prend les choses avec une forme de grande fatalité.
C'est ça.
Et elle ne croit pas encore, en tout cas, je pense quand elle livre ça. Enfin, je dirais qu'à la fois, elle ne croit pas encore à la possibilité pour elle-même d'en sortir. Et elle explicite très bien, effectivement, à quel point elle est dans la dépendance et l'emprise, on peut dire aussi. Et en même temps, pour moi, déjà, de dire ça et d'amener ça, et comme je le disais, c'est quand même elle qui a choisi d'aller voir cette personne et qui a choisi à ce moment-là de se livrer de cette manière-là. Et je pense que c'est parce qu'en fait, justement, il y avait déjà une énorme étape. Enfin, par ailleurs, il y avait le combat juridique qui était lancé. Mais je pense que là, il y a un vrai pas qui est passé quand même dans son combat intime. Et qu'en fait, déjà qu'elle livre ça et qu'elle le fasse ressurgir, c'est que c'est bon, en fait, quelque part, qu'elle est prête à en sortir. Enfin, même si ça va encore être très compliqué, ça va être un long cheminement, et ce sera un cheminement tout au long de sa vie, je pense. Mais là, moi, je vois déjà quelque chose d'énorme. Et elle était bouleversée après ça, mais en même temps aussi peut-être parce qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est passé. Et pas seulement, enfin, dans sa vie, en fait, je pense, dans le fait de livrer ça.
Alors dans le film, elle rompt les chaînes. Est-ce que dans la vie, elle a continué ce chemin dont tu parles ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a retrouvé un compagnon normal, chelou, c'est-à-dire quelqu'un qui la respecte ?
Oui, complètement. Bah, elle est plus du tout elle est plus du tout en lien avec William. Il la laisse tranquille et lui, il allait refaire sa vie dans le sud de la France et avec une autre femme. Et il a eu des enfants derrière, donc bon, voilà ce qui est triste. En tout cas, il est plus en lien avec ses enfants, mais Sheila est tranquille. Et effectivement, elle a un nouvel amoureux. Alors, elle dit qu'elle s'ennuie, mais en rigolant en même temps, mais qui est clairement pas un type violent. Et avec qui ça a l'air de bien se passer, qui est venu voir le film à plusieurs reprises, qui la soutient là-dedans, donc qui est au courant de toute son histoire et qui, a priori, est dans un positionnement d'accompagnement et de soutien.
Et quant à Solide, est-ce qu'il a enfin trouvé les clés de l'amour et d'une relation harmonieuse, en tout cas avec les femmes ou...
C'est vrai qu'on dressait un peu les parallèles... un peu le miroir entre nos deux films, et en tout cas dans le même genre, Michael s'est trouvé une copine avec on sentait aussi l'envie, voilà, de suivre un schéma qui s'était dressé dans sa tête familiale. Il a trouvé quelqu'un, 2 semaines plus tard ils ont emménagé ensemble, et là il s'est fait construire une maison pas très loin de chez son père, son grand-père et toute la famille. Du coup, ils ont emménagé ensemble et en tout cas, pour l'instant, ils vivent de beaux jours ensemble.
Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que le film a servi à accélérer la prise de conscience, l'introspection ?
Dans ma part, non, je pense pas.
Ouais, c'est une question que je trouve toujours compliquée parce que j'ai pas envie de supposer. Enfin, ce serait à elle de répondre.
Qu'est-ce qu'elle en dit,
elle ? Elle dit que oui, parce qu'elle, quand elle nous a. Elle a vu le film seule, on a essayé de le voir ensemble la première fois, et puis comme le film a été pris dans un festival, du coup, on est allé le présenter, elle pouvait pas venir, et donc elle avait quand même envie de le voir, et elle a fini par le voir seule chez elle la première fois, et elle m'a appelée directement après. Et ce qu'elle m'a dit quand même d'hyper fort, c'est « Mais attends, c'est fou justement cette scène-là qu'on vient d'entendre. Mais comment j'ai pu dire ça? Comment j'ai pu penser que j'étais prête à mourir sous les coups de ce type ?» Et du coup, moi, d'entendre ça, je me dis « Bon, quand même. » Et oui, elle, après, en tout cas, elle dit beaucoup que oui, ça a été très accompagnant et qu'elle n'aurait pas pu sans. Alors après, mais alors que pour le coup, nous, on n'a pas du tout influé sur la part. On est devenus amis avec elle. On est devenus proches, mais on n'a pas, on lui a jamais dit, par exemple, fais les démarches juridiques pour le film ou parce qu'on voudrait pouvoir filmer ça. Ça a toujours été ses propres décisions, mais oui, peut-être que le processus de tournage a aussi donné une importance à des faits qu'elle considérait un peu comme banal, en fait. Nous, quand on l'a rencontrée, elle était assez ambivalente dans son rapport à la violence. En même temps, elle exprimait cette rage et cette injustice, comme je disais tout à l'heure, mais en même temps, elle avait aussi l'air de trouver ça normal. Enfin, quelque part, la violence, elle avait toujours été là. Donc, oui, qu'un mec qui te tape dessus, c'est pas... Oui, c'est banal. Et on n'en fait pas tant qu'à que ça, quoi.
Et quand tu disais, si vous avez interféré dans son parcours, est-ce que dans les moments où vous passiez avec elle, elle vous posait des questions sur votre avis? Ou en fait, c'était toujours...
Au fur et à mesure, en devenant de plus en plus proche, oui, parce que... Mais je dirais que c'était un peu à côté du film, plus dans la relation qu'on a créée. Et par exemple, c'est déjà arrivé qu'elle nous appelle dans des moments de grande souffrance, où là, clairement, nous, on ne se posait même pas la question de filmer ou pas, juste on la voyait en tant que pote. Et où là, on pouvait, dans le conseil, mais comme on le serait avec n'importe quel pote. Après, en fait, on avait un peu chacun notre relation à elle aussi, même si on était vraiment un trio... Sur le tournage, mais avec Paul, elle était plus dans une relation de blagues et de conseils. Elle écoutait quand même beaucoup ce qui lui est renvoyé en face. Avec moi, elle était dans quelque chose beaucoup plus de l'ordre de « Toi, en tant que femme, c'est quand même étonnant que t'es pas encore d'enfant, que vous soyez pas mariée. » Et plus dans cette curiosité de constater les différences de nos vies et notre manière de... Oui, de se construire en tant que femme, quoi.
Je sais pas si tu veux en parler, mais du coup, elle voyait un couple en face d'elle.
Oui, parce qu'on était en couple pendant le tournage avec Paul. Et oui, elle nous concevait chacun comme personne à part entière, mais elle nous voyait aussi comme un couple. Et je pense que c'est ça aussi qui a rendu possible le tournage, parce que autant en tant que femme, peut-être que moi, j'aurais pu quand même faire un film avec elle, et ça aurait sûrement pas été le même. Je pense que Paul, en tant qu'homme, et même d'ailleurs dans les moments où elle s'est remise avec William, il a accepté qu'il y ait un tournage parce qu'on était un couple. Et oui, elle s'interrogeait quand même sur nous, nos manières de vivre le couple.
Mais... On est très bien avec vous, en fait. Là, on pourrait prolonger la discussion pendant des heures. Malheureusement, Sidi nous dit en régie qu'il va falloir conclure. Moi, je veux juste un petit mot pour dire qu'il y a un regard... dans des films, des histoires, des univers complètement différents, mais un vrai regard humaniste de toi, tu aurais pu le descendre. Et pourtant, petit à petit, en fait, il est très estimable. C'est-à-dire, on le voit travailler comme son grand-père construit à 100 ans son mur, et lui, il travaille d'arrache-pied pour essayer de progresser, d'avoir de nouveau, etc. Et vraiment, ça, il force l'estime. Et petit à petit aussi, on le voit au début, donc comme on l'a entendu... lui, il mesure ses mollets, etc. Et plus ça va, plus il est attachant. On voit ses failles, ses contradictions. Et puis, peut-être le point commun, c'est toujours de filmer des gens, finalement, qui ne baissent pas la tête, quoi. Et c'est vrai pour Offra Libre, les ouvriers qui montent leur coopérative. C'est vrai pour Challah. C'est-à-dire, peut-être le regard humaniste du documentaire, c'est d'abord de filmer les gens qui lèvent la tête. Est-ce que vous adhérez à cette...
Oui, je ne sais pas si c'est le documentaire de manière générale, mais en tout cas, moi, c'est sûr que c'est... je disais tout à l'heure, j'ai envie de raconter comment les gens se débrouillent avec la vie, mais oui, aussi comment en fait la vie les transforme et comment ils transforment leur vie en retour, et comment ils mènent les combats intimes.
Le documentaire, en général, c'est pas des films d'action, mais c'est de la caméra en action. Elle intervient et elle peut aussi rendre des fois... possible le changement du regard. Et le silence parfois est suffisant.
Et comment ça nous travaille, nous, en tant que spectateurs aussi
En tout cas, c'est vrai qu'en découvrant, et parce qu'on apprend en faisant des films documentaires, on découvre à quel point c'est aussi un genre humaniste, parce qu'on filme des personnes avec lesquelles on va passer du temps, pour lesquelles on a une responsabilité dans la manière de les filmer, de montrer leur vie. Et du coup, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, et on est obligé d'avoir un regard humaniste sur eux. C'est pas comme si on écrivait une fiction, on peut écrire un rôle de grand. On peut pas écrire un rôle de grand méchant ou un rôle qui ne correspondrait pas à la réalité. Il faut avoir ce travail humain.
Merci beaucoup.
Et puis rendre aux êtres leur complexité. En tout cas, c'est extrêmement bien sculpté. C'est vraiment, je n'entends pas le terme à dessin. C'est-à-dire que face à des situations comme ça de vulnérabilité quand même intense, c'est comment. Comment sculpter le personnage pour que lui rende justement toute sa dignité. La dignité, c'est la complexité de l'individu, que c'est pas facile, on se bat, on se débat avec nos propres démons. Et la question qui vient un peu naturellement derrière, c'est le prochain film où on va voir des gens qui lèvent la tête. C'est quoi vos projets de film ?
Oui, je crois que c'est aussi, enfin, en tout cas dans mon cas, l'envie de filmer. Alors là, c'est des plus jeunes. C'est des plus jeunes qui ont dû partir de chez eux et qui se retrouvent sur un territoire, donc c'est aussi dans le nord de la France, qui n'est pas leur au départ. Et comment ils vont essayer de construire leur vie et professionnelle et intime et de devenir adulte, comme on pourrait dire un peu communément, en n'étant pas chez eux, quoi.
D'accord.
Alors moi, j'avais envie de pousser beaucoup plus loin... le plan de campagne, qui est une zone, donc la grande zone commerciale du film Danse Solide, et en allant dans la suprême zone commerciale mondiale. Donc je suis parti à Dubaï, et donc là je fais un film choral que je suis en train de réaliser en ce moment, où je suis là plusieurs personnages, mais cette fois encore avec l'idée de travailler un territoire qui, pour bien des gens, peut paraître soit très cynique, soit très dur, et au sein de ce système-là, trouver aussi l'humain et différents parcours de vie et essayer de trouver les complexités de ce territoire.
Oui, voilà, le décalage horaire nous a causé un dépassement d'horaire, presque 10 minutes sur le créneau de l'émission. On vous remercie, Marius.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Juste peut-être finir par dire que le film... Que les deux films sont présentés donc au cinéma La Baleine sur le cours Julien le jeudi 11 avril Solide à 20h au cinéma La Baleine, et le dimanche 14 avril toujours à 20h toujours au cinéma La Baleine sur le cours Julien, et j'espère que vous serez nombreux pour venir voir les deux films de Clara et Marius. Et peut-être le mot de la fin, peut-être, Wahib.
On laisse le choix et le suspense, hein, et on vous remercie surtout nos chers amis auditeurs. On remercie Sidi de nous suivre et de nous aider à fabriquer cette émission. Et surtout, aussi, il y a un autre rendez-vous à ne pas rater, c'est le premier lundi du début juin. Pour la prochaine émission. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a
street lamp. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenements.